Le Salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo.
De nombreux invités ici qui viennent nous rejoindre, qui viennent se succéder à cette table. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Christelle Bruno. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien, Christelle ?
On peut même se dire bonsoir. Hein, maintenant.
Ouais, bonsoir. Ouais, ouais. Vu l'heure qu'il est, c'est vrai. Vous avez raison. Vous êtes directrice commerciale Grand Compte Foncia, présidente Foncia Immo 9. Merci d'être présente, de répondre évidemment à nos questions. On va parler de copropriété mixte dans quelques instants, peut-être juste avant, peut-être en préambule. Rappeler les spécificités de la copropriété mixte. Un mot sur Foncia. En priorité. Le groupe est aujourd'hui le premier syndic de France et notamment un acteur majeur dans la copropriété à la fois neuve et mixte. Comment est-ce qu'on peut décrire finalement la place de Foncia Habitat Social dans tout cet écosystème ?
Alors, pour le coup, Foncia Habitat Social est effectivement une marque assez récente dans l'écosystème Foncia puisqu'elle a 5 ans, 6 ans ouais. maintenant. Mmh. Et parce que justement, on a bien compris que le marché de la copropriété était en pleine mutation et que les copropriétés mixtes allaient devenir et l'avenir et majoritaire. Et donc Foncia Habitat Social a été créé pour accompagner notamment les bailleurs sociaux au sein de ces immeubles.
C'est quoi les principaux enjeux au sein justement de ces copropriétés dites mixtes ?
Pour le coup, effectivement, il ne faut pas se rater sur le début de l'histoire, puisqu'on va quand même avoir plusieurs modes d'occupation et plusieurs profils d'occupants qui vont cohabiter ensemble. Et donc là, pour le coup, il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour que le parcours résidentiel se passe au mieux.
Et d'ailleurs, si on devait donner une définition à la copropriété mixte, qu'est-ce qu'on dirait ?
Alors, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait que la copropriété mixte, ce sont des immeubles en copropriété dans lesquels vous avez des propriétaires privés, comme on en a l'habitude, et un bailleur social qui souvent va être majoritaire, je dis bien souvent, c'est pas toujours, et donc lui, il va accompagner ses occupants qui, eux, sont des locataires. Mmh. Et en fait, vont se confronter finalement un bailleur social, des locataires et des copropriétaires privés.
Et tout ce petit monde arrive à s'entendre.
On est là pour ça.
Ouais, c'est votre rôle.
C'est notre rôle.
De fluidifier la communication, les relations.
Exactement, de les accompagner. Parce qu'on pourrait se dire bailleur social. Alors d'ailleurs, certains, ça peut faire peur à certains. Alors qu'au contraire, c'est une grande chance d'avoir un bailleur social au sein des immeubles.
Okay.
Et puis les locataires de ces bailleurs sociaux, en fait, peuvent être montés en association de locataires et se retrouvent à avoir des droits comme des copropriétaires. Et finalement, tout le monde n'est pas habitué à ça. Donc il faut bien qu'on sache accompagner tout ce petit monde ensemble.
Pourquoi c'est une chance d'avoir un bailleur social ? Je reprends vos mots.
Alors, pourquoi c'est une chance ? Je vais vous dire déjà nos charges. On est presque certains, on est même certains qu'elles seront payées. Un bailleur social honore toujours ses charges. On n'a pas d'impayés. Donc ça veut dire que déjà, on aura une copropriété qui pourra fonctionner. On n'aura aucun problème à ce niveau-là. Parce que vous savez que ça existe aussi. Les impayés sur les copropriétés, c'est un sujet.
Et c'est de plus en plus le cas, d'ailleurs,
voilà.
Malheureusement.
Donc, nous, nos bailleurs sociaux, eux, payent leurs charges. Et puis, à côté de ça, ce sont des sachants. Donc, en fait, ils peuvent nous accompagner sur les problématiques techniques. Et puis, si on parle d'un grand sujet type la réno énergétique qui nous anime tous, ils vont être présents à nos côtés. Eux ont de forts enjeux et des fortes ambitions sur ces sujets-là. Et globalement, ils vont voter pour ces travaux-là. Et comme ils ont un poids non négligeable, ça va nous permettre de mener à bien nos projets de réno énergétique.
Et d'accélérer aussi peut-être les prises de décision.
Exactement. Donc non, c'est une chance.
C'est une chance. Certaines copropriétés mixtes sont nées lorsque les locataires de logements sociaux sont devenus eux-mêmes propriétaires. C'est quoi les difficultés rencontrées justement par ces nouveaux copropriétaires lors de cette transition ?
Alors, pour être même encore plus précis sur cette notion de copropriété mixte, en fait, vous le savez que le secteur du neuf souffre beaucoup. Donc, il a été décidé, l'État a demandé finalement aux bailleurs sociaux d'être un peu l'amortisseur et d'acheter massivement du neuf. C'est comme ça que les bailleurs sociaux se sont mis à acheter des cages d'escalier, des quelques lots. En fait, et c'est comme ça que, quand même, la copropriété mixte, aujourd'hui, on a quasiment 100% des nouveaux immeubles qui sont en copro-mixte. Hein, parce que pratiquement partout, vous avez et un bailleur et des copropriétaires privés. Mais pour financer ces achats dans le neuf, les copropriétés de bailleurs sociaux se sont mis à vendre le parc ancien dans lequel ils étaient en pleine propriété. Et du coup, ils se sont mis à vendre des lots et ils sont tombés sous le régime de la copropriété, eux aussi. C'est pour ça que ça devient hyper massif. De 20% du parc en copro mixte, on va être d'ici un an à peu près 60%. Donc c'est quand même un vrai, vrai enjeu, et c'est même un enjeu sociétal en fait, finalement, d'accompagner ces différents occupants, on va dire.
Les différents profils.
Exactement.
Sur les nouveaux copropriétaires, comment est-ce que vous les accompagnez aussi dans la compréhension de leurs nouveaux droits, de leurs nouveaux devoirs aussi ?
Exactement ça. Alors, parce que quand même, l'idée, c'est que souvent, ce soit des locataires du parc social qui deviennent propriétaires.
Mais oui, c'est ça, oui.
Beaucoup. C'est pas que ça, mais beaucoup. Et donc là, pour eux, c'est ça. C'est que c'est tout nouveau. Et ils ont les droits, assez vite, ils les comprennent. Mais il y a aussi effectivement des devoirs. Ne serait-ce que même de payer des charges globales, ils sont moins habitués. Et savoir qu'est-ce que comportent les charges, c'est à nous de les accompagner, de leur expliquer ce qu'il y a effectivement. Et quand vous parlez droit de voir, quand vous étiez locataire, vous êtes habitué à appeler votre propriétaire quand il y a un petit souci dans l'appart. Quand vous devenez copropriétaire, il y a une forme d'autonomie à avoir de toute façon.
Dans une copropriété mixte, le bailleur social conserve souvent une part importante des lots. Ça lui donne un poids qui est important en termes de décision, notamment à l'occasion des assemblées générales. Comment maintenir finalement un équilibre dans la gouvernance entre les différents profils, entre les différents acteurs, copropriétaires individuels, bailleurs, locataires ?
Alors la loi est bien faite, hein, parce que malgré tout, alors oui, ils sont souvent majoritaires. Avec les années, ça diminue un petit peu puisqu'ils vendent une partie de leur parc. Mais la loi fait que de toute façon, les droits de vote sont quand même minorés. Mais c'est un acteur important. Donc en fait, bien sûr qu'on le sollicite et on l'associe à beaucoup de décisions. Mais ça se fait quand même assez bien. Enfin, quand je dis ça se fait assez bien... L'idée, c'est de rassurer tout le monde et de montrer effectivement aux copropriétaires privés, enfin, j'aime pas tellement employer ce terme-là, mais qu'effectivement, le bailleur est c'est un atout, en fait, pour la copropriété. Et honnêtement, avec le temps, au début, il y a vraiment de la crainte. Et puis, les faits montrent qu'en fait, non, c'est une bonne chose.
Michel, vous disiez tout à l'heure que le bailleur social, c'était une chance.
Ouais.
Est-ce que c'est une chance aussi d'avoir cette diversité dans les profils ? Est-ce que ça peut servir de même de levier de cohésion quelque part ou c'est un peu compliqué quoi.
Il y a de la crainte, hein. il y en a souvent injustifiée,
okay.
comme ça peut arriver.
Il n'y a jamais de source de tension. Ça peut arriver.
Ouais, ça peut arriver, mais finalement, c'est des sources de tension, finalement, presque sur le statut du locataire. Donc, qu'on soit locataire d'un bailleur social ou locataire d'un bailleur privé, finalement, c'est presque plus, on va dire, copropriétaires qui vont se heurter au locataire qu'au bailleur social. C'est d'autres sujets, en fait.
Ouais.
Sur l'entretien du bien, sur la dégradation, mais ouais, enfin, c'est simplement un reflet de la vie en société, hein, entre nous. Et d'ailleurs, la copropriété, c'en est une illustration. Hein.
Est-ce qu'il y a des compétences clés qui sont nécessaires justement pour gérer les copropriétés mixtes ?
Alors, les mêmes que de la copropriété effectivement ordinaire, on ne va pas revenir sur toute la technicité, mais peut-être quand même que un peu l'empathie, l'accompagnement, la bienveillance, oui, quand même. D'être quand même un peu pédagogue. Alors vous allez me dire, on pourrait le faire sur de la copropriété ordinaire, mais il y a d'autres quand même d'autres savoirs être et savoir-faire à quand même posséder, oui.
Bah d'accord, les soft skills ont quand même leur importance.
Ouais, ouais.
Okay.
Oui, et d'ailleurs, nous, on a mis pas mal d'outils en place pour ça.
Comme quoi ?
On a quand même on a des guides de bienvenue et des webinaires et des réunions de formation, d'information pour aider les locataires d'ailleurs à avoir leur statut de propriétaire. Donc ça marche d'ailleurs pour un locataire privé ou du parc social. Mais oui, on a quand même développé des supports pédagogiques, pas mal, et sur place dans les immeubles aussi. Hein.
Oui, parce qu'encore une fois, dans ces copropriétés mixtes, en fonction du profil que l'on a, les intérêts peuvent être divergents, pas forcément les mêmes. Là aussi, vous accompagnez, j'imagine, à faire en sorte que, encore une fois, on arrive à s'entendre, quoi.
Oui, oui, oui. Bah, justement, alors là aussi, c'est à nous, lors des AG, d'expliquer aux copropriétaires que oui, une association de locataires a sa place, peut assister à l'AG. Ils n'ont pas le droit de vote, mais en fait, c'est de les considérer quand même comme vraiment des occupants et ce qu'ils sont. Même si après, on va revoir avec le bailleur social les prises de décision. Mais oui.
C'est quoi la véritable mission et la valeur ajoutée finalement de Foncia Habitat Social ?
Alors, elle est plus pour le coup finalement sur la partie des bailleurs sociaux, de les accompagner eux. Enfin, quand je dis eux, pour qu'ils aient des référents uniques, qu'on puisse quand même les accompagner eux dans leur demande sur des particularités techniques, sur les paiements justement de leurs charges. Enfin, et puis eux-mêmes sont en train de se structurer. Hein. Il faut quand même savoir que les bailleurs sociaux, alors il y en a qui sont eux-mêmes syndics, donc ça, je vais les mettre à part.
Évidemment.
Mais il y en a pour beaucoup, c'est nouveau le métier de la copropriété. Enfin, ils sont pas habitués à avoir le statut de copropriétaire. Donc il fallait bien qu'on les accompagne parce que leurs propres équipes étaient habituées à tout décider tout seuls, sans imaginer qu'il y avait quand même finalement d'autres personnes qui avaient des votes, qui avaient des assemblées générales.
Qui avaient donc leur mot à dire.
Exactement. Et ils étaient habitués à décider seuls. Donc c'est plus pour eux, finalement, que la marque a été créée dans l'absolu.
Ouais. Et vous trouvez justement qu'il y a eu une évolution des comportements ?
Ah ouais, enfin, ouais. Et puis là, pour le coup, les bailleurs, quand je vous dis que moi, je considère que c'est des vrais partenaires, ils vont vite. Enfin, quand je dis ils vont vite, ils ont appréhendé le sujet vite. Ils ont mis quand même des moyens humains, techniques, pour comprendre, comprendre et nous accompagner. Enfin, je veux dire, ouais. Et ça va très vite.
Alors, les copropriétés mixtes, elles sont aussi quelque part finalement un levier pour favoriser justement l'accession à la propriété, encourager aussi la mixité sociale. Il y a un vrai rôle aussi là-dedans qui est important. Comment ces modèles finalement vont permettre de contribuer à réinventer le vivre ensemble quelque part ? Parce que c'est ça la vraie question aussi, le vivre ensemble dans les territoires.
Alors, en tout cas, ça y contribue, c'est sûr. Ouais. Là, en fait, en tout cas, ça permet d'accélérer, de favoriser le parcours résidentiel des locataires, devenir propriétaire et donc copropriétaire, venant de tous horizons. En tout cas, ça fonctionne. Hein. Les résultats sont hyper probants. Hein.
Mmh. Oui, vous avez des exemples comme ça, éventuellement à donner, qui vous viennent, j'en sais rien. Hein.
Non, c'est compliqué. Quand je vous dis difficile, en tout cas, j'en aurais plus sur des immeubles anciens, et donc pas du neuf, des immeubles anciens qui étaient donc entièrement, la propriété était celle d'un bailleur, ils ont décidé de commencer à mettre en vente, on va dire que une bonne moitié de l'immeuble devient, c'est les propres locataires de l'immeuble, les occupants qui sont devenus propriétaires, donc à des prix plutôt quand même attractifs. Ouais. Mais ils ont pu rester chez eux, ce qui est plutôt sympa. Les autres lots sont partis à la vente, donc là, du coup, avec des copropriétaires privés. Et tout ça, c'est quand même fait en harmonie, avec pas d'impayé de charges, avec des travaux votés. Et puis, les bailleurs ont accompagné, c'est-à-dire qu'ils mettent en vente en essayant de laisser les immeubles bien entretenus. Donc, et c'est sur tous les territoires. Hein.
Ouais.
Là, il n'y a pas d'histoire de parisianisme. Ouais. Tous les territoires, ça se passe comme ça, ouais.
Vous pensez que ce modèle pourrait se développer davantage, notamment dans les politiques d'urbanisme et de mixité sociale, parce que c'est des sujets dont on parle tout le temps. Donc,
Moi, je pense qu'on est, on est en plein dedans, et je pense que pratiquement tous les immeubles en copropriété seront sur ce modèle-là dans les années à venir, ouais.
D'accord. Ah oui, on va
la bascule, ouais. On sera en copromixte.
Okay. Comment ça doit évoluer aussi dans les années à venir ? Est-ce que vous avez une idée, une vision ? Non ?
Vous êtes dur, là. Vous êtes dur. Oh, bon.
C'est la dernière question en même temps.
Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce terme de copromixte que personne ne connaissait, parce qu'en fait, si on le connaissait plutôt sur les usages, de dire, tiens, il y a des habitants avec du bureau. Enfin, là, maintenant, c'est plus ça. C'est un bailleur social et des copropriétaires privés. Je pense que ça va rentrer dans le langage commun.
Un grand merci.
C'est moi qui vous remercie.
Un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver en intégralité, en replay, en podcast depuis l'application ou notre site internet Radio Immo. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques instants, ici même, toujours au Parc des Expos, Porte de Versailles, pour vous faire vivre ce salon de la copropriété de l'habitat 2025. A tout de suite.
Le salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo. Thank you.